Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Le saviez-vous ? Dans le silence feutré d'un matin d'avril à Toulouse, l'écriture a rendez-vous avec la lecture. Mais où donc ? En un lieu où les mots, passant mystérieux de l'âme, traversent l'espace pour se poser délicatement sur des pages blanches. Ici, chaque stand est une constellation, chaque livre une planète à explorer. Gardiens de ces mondes, les auteurs qui ont appris à lire dans les étoiles vous attendent patiemment, prêts à partager leurs univers, car ils savent qu'écrire, c'est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l'ouvrir. Vous, lecteurs, voyageurs immobiles, curieux, chercheurs de vérité, aventuriers de l'esprit, amoureux des mots, laissez-vous attirer par la lumière douce des histoires inédites, car la lumière est dans le livre. Alors ouvrez-le, ouvrez-le grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Ici, le temps suspend son vol, ici c'est le salon de l'Académie des livres de Toulouse que nous allons découvrir aujourd'hui. J'ai donc le plaisir de recevoir l'Académie des livres de Toulouse qui tient son salon du livre ce samedi 26 avril 2025, c'est-à-dire donc samedi prochain. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'en recevoir son président, Jean-François Gourdou, et Gérard Muller, qui est impliqué dans le salon et le concours organisé par le salon, et qui est par ailleurs écrivain lui aussi. Bonjour Jean-François Gourdou.
Bonjour Radio Présence.
Bonjour Gérard Muller.
Bonjour Philippe.
Bonjour à tous, merci d'être des nôtres. Je remercie également Antoine de Saint-Exupéry, Christian Bobin, Victor Hugo et Lamartine d'avoir contribué à l'introduction de cette émission. Première question avant de faire plus ample connaissance avec, pour nos auditeurs. Savez-vous quel est le pays en Europe où on lit le plus ?
Sûrement la France.
Gérard ?
Moi, je dirais l'Angleterre.
Alors, c'est la Suisse.
Ah.
Hein, j'ai été étonné par ce chiffre. Une personne sur deux lit au moins 4 livres par an. En revanche, en France, la statistique, c'est une personne sur 6 ne lit quasiment pas de livres.
Oh.
Voilà. Donc, vaste mission pour une Académie du livre. L'objectif reste ambitieux. Et une petite question complémentaire, avez-vous une idée de l'ordre de grandeur des manifestations littéraires en Occitanie, salon du livre, de la poésie, des contes, etc. Juste.
Moi, je dirais plusieurs centaines, ouais. 250. Allez, je me lance.
Bravo,
250.
Bravo Gérard Muller, c'est 260.
Ah. Très bien. Ah oui, c'est considérable.
Ouais. Alors, je vais présenter nos invités. Donc, Jean-François Gourdou, vous êtes président de l'Académie des livres de Toulouse et également secrétaire perpétuel de l'Académie du Languedoc. Vous êtes également un écrivain, à vos heures, et un grand collectionneur de livres sur Toulouse. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits détails sur cette collection de livres sur Toulouse ?
Ah, on a beaucoup écrit à Toulouse. J'en possède environ 300. Depuis les premiers livres après les incunables, jusqu'à maintenant, un nombre énorme de livres. Il en sort presque tous les mois. C'est vraiment une pépite, Toulouse, pour les livres.
Et vous continuez à alimenter cette collection ?
Ah, j'achète les dernières parutions chaque fois, bien sûr.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi également écrivain et on avait ici à Parole d'auteur le plaisir de vous recevoir pour votre livre Saint-Domingue, la saga du planteur Joseph Gourdou, paru en 2023. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle un autre projet de livre ?
Non, actuellement, je suis en recherche, mais... J'ai plusieurs idées, bien sûr.
Bon, alors nous serons patients.
Oui.
Gérard Muller, vous êtes écrivain ou peut-être il vaut mieux dire romancier ?
Oui, romancier de fiction et romancier de polar, les deux.
Alors vous êtes ancien ingénieur, expert en pilotage de satellites, membre de l'Académie des livres de Toulouse et ainsi que de la Société des artistes et poètes de France.
Oui.
C'est exact. Est-ce que vous êtes un grand lecteur ?
Oui, je suis un grand lecteur. Mais je viens de lire par exemple Murakami, le dernier Murakami qui est formidable. Je suis en train de lire le dernier bouquin d'Irvine aussi. Mais j'ai des marottes, j'ai des écrivains. C'est-à-dire que quand j'aime un écrivain, je lis tout toute son œuvre de A à Z.
D'accord, vous allez jusqu'au bout.
Voilà. S'il me plaît, bien sûr.
Alors, vous explorez différents genres littéraires dans votre écriture, du thriller au roman psychologique. Vous avez eu de nombreux prix de poésie.
Oui, j'ai commencé par la poésie. Je trouve que la poésie, c'est une très bonne école pour continuer à écrire de la prose. C'est très formateur. J'ai toujours dit que la poésie, c'était le laboratoire de l'écriture, le laboratoire de la langue.
Ça veut dire qu'il faut commencer par de la poésie pour ensuite pouvoir écrire des romans,
pas
des
forcément,
nouvelles.
Mais ça aide.
Ça aide beaucoup.
Notamment pour le rythme.
D'accord,
pour le rythme.
D'accord. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, puisque vous êtes également directeur de collection.
Oui, d'une maison d'édition qui est Albi, Un autre regard, où je m'occupe de la collection romans.
Et enfin, vous êtes également, vous exercez une activité qu'on pourrait intituler « coach en écriture ».
Oui, au sein d'un atelier littéraire à Toulouse qui s'appelle Philémon, où je coach de jeunes auteurs, jeunes entre guillemets, ils peuvent être très âgés, jusqu'à l'édition de leur premier roman sur un cursus de 3 ans. Première année, on apprend à écrire, on décoince. Deuxième année, on s'attaque à des nouvelles. Et troisième année, on s'attaque à un roman. Et j'essaie de les conduire jusqu'à leur édition. C'est-à-dire, je trouve même un éditeur la plupart du temps.
D'accord. Alors nous y reviendrons en détail un petit peu plus tard dans l'émission. Je précise pour nos auditeurs que vous venez de sortir 2 nouveaux livres, puisque vous avez une production littéraire très...
prolifique.
Très plus que prolifique même. Donc 2 titres, Rodez en noir et blanc et On a volé le violon d'Ingres, paru pour les 2 ouvrages aux éditions des presses littéraires.
Oui.
Mmh. Bien, messieurs, alors... il faudrait nous expliquer maintenant, mais quelle est donc cette Académie des livres de Toulouse ? Jean-François Gourdou, est-ce que vous pourriez nous dire comment est née cette Académie ?
Oui, dans le cadre de l'Académie du Languedoc, depuis 30 ans, nous décernons un prix littéraire 2 à 3 fois par an. Faites le calcul, vous verrez le nombre d'auteurs que nous avons pu primer depuis 30 ans. Et j'ai remarqué que ces auteurs étaient un peu individualistes et qu'il n'y avait pas sur Toulouse une espèce d'association pour les regrouper. Et donc, c'est cette idée, nous avons voulu, par l'Académie des livres de Toulouse, regrouper des auteurs de la région toulousaine et même au-delà. Et actuellement, nous avons à peu près une centaine d'inscrits cotisants, plus de très nombreux amis. Donc, ce projet a pris corps et est devenu très actif.
Et c'est une association au niveau...
Loi 1901.
Alors, elle a été créée en quelle année ?
Ben maintenant, puisqu'elle fait suite à l'Académie Languedoc, qui a 65 ans, même 120 ans, dont l'Académie des livres, elle, a une dizaine d'années maintenant.
D'accord. Mais c'est une association qui est distincte juridiquement.
Ah oui, c'est indépendant. Oui.
Alors, elle a été créée, si mes informations sont exactes, donc par vous-même, par Patricia Puech-Blanc, qui est la vice-présidente, mm-hmm. et que nous saluons courtoisement à l'antenne. Et votre trésorier, c'est Jean-Claude Martinet.
Voilà.
C'est bien ça.
Et notre regretté vice-président premier, qui était le professeur Alain Bouisson.
Alors, vous parlez d'Académie des livres, il y a d'autres termes, il y a société savante, société littéraire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la différence de ces terminologies ?
Oui. Association recouvre toutes les activités en général. Mais tout ce qui est littéraire, on utilise surtout ce terme de société savante, qui regroupe quand même, en général, le trio, les arts, les lettres et les sciences. C'est le trio habituel. D'ailleurs, c'est le ministère de la Culture, des Arts, des Lettres et de la Science. Voilà. Et donc, pour qu'une association se distingue des associations ordinaires, tout azimut, notamment sportives, il faut qu'il y ait un supplément. Et nous avons choisi de continuer le terme d'académie. Voilà. Ce terme d'académie qui est prestigieux et qui nous rapporte à une très longue antiquité. Donc ce terme d'académie vient d'un nom grec, le nom d'un général grec qui, au 5e siècle, sauva Athènes de l'attaque des gens de Sparte, les Dioscures, qui étaient des jumeaux. Ces jumeaux étaient venus délivrer la belle Hélène, qui n'avait alors que 12 ans, parce qu'après elle fera longtemps parler d'elle, jusqu'à la guerre de Troie. Donc le roi d'Athènes, à l'époque il y avait un roi avant la démocratie, avait enlevé cette jeune fille qui était très belle. Donc les gens de Sparte ont voulu la libérer, ont fait le siège dans Athènes. Et donc Athènes a failli disparaître. Et là, ce fameux général a fait sortir la belle Hélène, fait sortir d'Athènes et l'a cachée dans un village loin d'Athènes. Et en disant aux gens de Sparte, finalement, elle n'est pas à Athènes, elle est à telle autre ville. Ce qui fait que le siège a été levé, ils sont allés chercher la belle Hélène, ils l'ont récupérée, bien sûr, et donc Athènes a été sauvée. Dont les Grecs, pour remercier ces grands personnages, souvent les nommaient héros, demi-dieux. Alors, pour perpétuer sa mémoire, à 20 km d'Athènes, les Grecs avaient construit un temple sur une colline boisée d'oliviers, de cyprès, de platanes, un endroit bucolique. Et depuis le 5e siècle, les Grecs allaient de temps en temps se recueillir et se reposer sur cette colline boisée. Voilà. Et au 3e siècle, le philosophe Platon, qui avait été chassé d'ailleurs de Syracuse, s'était réfugié à Athènes, qui n'en voulait pas trop quand même, parce qu'il était un peu un agitateur. Et donc finalement, il s'était installé dans les bâtiments du temple d'Académos. Voilà. Et à ce moment-là, il a créé une école de philosophie et de littérature. Et du fait qu'il était dans le temple d'Académos, eh bien, son école s'est appelée l'Académie de Platon, dont le mot d'académie vient de ce fameux nom grec, Académos. Et si on va même plus loin, Aka veut dire la tranquillité et Démos, la population. Donc Académos, la tranquillité de la population. C'est une étymologie magnifique.
Merci beaucoup pour ce moment d'histoire.
Alors, il faut quand même savoir que quand les Romains ont conquis et colonisé la Grèce, ça ne leur plaisait pas, ce terme d'académie. Platon n'était plus à la mode et le nom d'académie a disparu. Ensuite, en Europe, jusque tout le Moyen-Âge. Il a fallu attendre les Italiens et les rois de France, Valois, qui ont été critiqués souvent. Charles IX, Valois, le fils de Catherine de Médicis, a créé une première académie dans la région parisienne. Et son frère, Henri III, a continué. Donc il y a eu deux académies au milieu de la Renaissance. C'était dans l'esprit, la Renaissance du retour à l'Antiquité. Mais ça fait long feu. Il y avait une aussi à Florence, l'Académie des Belles-Arts de Florence, toujours pendant la Renaissance. Puis, après la Renaissance et les guerres de religion, ça a de nouveau disparu. Il a fallu attendre Richelieu, qui a créé, comme tout le monde le sait, l'Académie française. Il avait des lettres, il parlait grec, et il a dit, eh bien, moi je vais faire une société savante à Paris, et son secrétaire, Conrad, lui a dit, mais comment on va l'appeler? Et comme il avait des lettres, il a dit, on va l'appeler l'Académie française.
Très bien. Et c'est à partir de quel moment qu'il y a eu création d'Académie dans la région Occitanie?
Alors, en France, à ce moment-là, après le règne de Louis XIII et Louis XIV, il y a eu des académies qui sont développées pratiquement dans toutes les villes. Souvent, c'était des académies spécialisées. Académie d'architecture, académie des beaux-arts, académie de médecine, académie de chirurgie, spécialisées. Voilà. À Toulouse, par contre, nous avions eu l'Académie des sciences en 1640, 2 ans après l'Académie française. Par contre, les Jeux Floraux est une institution très particulière à Toulouse, puisqu'elle remonte au XIIIe siècle, juste après le Moyen-Âge. Et donc, c'était la réunion de 7 troubadours qui s'étaient réunis à Toulouse, on appelait ça le Gai Savoir, et qui déclamaient des poésies dans l'esprit de l'époque. Voilà. Ensuite, les Jeux Floraux sont restés société savante jusque sous Louis XIV, et que ce n'est que sous Louis XIV qu'ils ont obtenu, par lettre patente de ce roi, le titre d'académie. Voilà. Mais l'Académie des sciences était antérieure à 1640.
Nous avons toutes les informations sur le contexte.
Voilà, dont nous avons voulu choisir un nom prestigieux pour notre association. Et puisque le nom est libre, hein, c'est pas comme Champagne qui est privé. Non, Académie, c'est libre. Alors, on a choisi Académie et je pense que tous les membres sont très fiers et le mettent sur leur carte de visite.
Et le libellé exact, c'est bien Académie des livres de Toulouse.
Oui, oui, oui.
Gérard Muller, Jean-François Gourdou, je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale où nous n'allons pas lire ou écrire, mais écouter de la musique. Donc.
Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre. Ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Robinson ou Gulliver ou Cosette et Javert. Au fin fond de la Mancha, retrouver Sancho Panza dans la ville de Padova, le libertin Casanova, savourer Frédéric Dard, le breton Alphonse Boudard, ou les aventures friponnes de Restif de la Bretonne. Rendez visite à Podane, à Gil Blas de Santillane, devenez les commensaux de Voltaire et de Rousseau. Et si vous trouvez amer les raisins de la colère, allez faire des cabrioles au pays de Lewis Carroll. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Albert Cohen ou Balzac, Machiavel ou Pierre Dac. Délectez-vous en passant d'un joli conte persan ou savourez quelques vers de Verlaine ou de Prévert. Une pensée de la Haute-Ceu, apitoyez-vous sur ce pauvre César Birotteau qui a croqué tout son gâteau bien au chaud dans votre dodo. Emportez Georges Amado ou ce Julio Cortazar qui a des histoires si bizarres. Il sera minuit sonné, vous aurez toujours le nez dans un roman de Sandra ou le journal de Jules Renard. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre Scheherazade ou Lucrèce au jardin des caresses. Après Dumas et Kessel, découvrez Raymond Roussel. Amenez le divin marquis chez Madame de Bovary. Vous resterez étourdi du voyage au bout de la nuit. Rabolio vous séduira comme Zazie ou Jacques Vintras. Aimez-vous les esprits forts, dévorez messieurs Champfort, La Rochefoucauld, Shakespeare, n'ont laissé que de bons souvenirs pour de multiples raisons. Si un jour je vais en prison, je veux bien me passer de croissant, mais ne me laissez jamais sans. Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre, ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre tous ceux qui ont le chou farci, à qui je dis merci.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de l'Académie des livres de Toulouse qui tient son salon du livre ce samedi 26 avril 2025 à partir de 10h au Novotel Capoul, place Wilson à Toulouse. Donc nous avons évoqué un petit peu l'histoire des académies. Je voulais vous poser la question, quelle est la vocation de votre académie, de l'Académie des livres? Et peut-être auparavant, Gérard Meunier, vous pourriez nous indiquer depuis quand vous êtes membre de l'Académie des livres? Et une question connexe à laquelle vous pouvez peut-être répondre aussi tous les deux, est-ce que tous les membres de l'Académie sont des académiciens?
Alors, je laisserai Jean-François parler du but de l'Académie. Moi, je suis membre depuis pratiquement le début, puisque j'ai le fauteuil numéro 9, sachant qu'il y a 80 fauteuils, hein, c'est ça.
80, oui. 80 on a fauteuils, doublé le chiffre 40, on a, qui est on a, le chiffre de l'Académie française.
Donc on a atteint 80. Hein. Et donc il y a des membres qui ne sont pas académiciens, qui attendent d'être académiciens, hein, que quelqu'un parte. Voilà.
Voilà. Et est-ce que les académiciens sont des immortels ou pas?
Ah, comme disait le cardinal, c'est la langue française qui est immortelle. Et ses membres avec.
Alors, revenons à la vocation de cette académie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous faites pratiquement au cours de l'année au sein de cette association?
Donc, le but essentiellement, c'est de réunir des auteurs de la région toulousaine, mais comme je le dis souvent, les auteurs sans lecteurs ne sont rien. Donc il y a aussi des lecteurs membres de l'Académie. Tous ne sont pas que écrivains, mais la majorité sont finalement écrivains et lecteurs.
Et alors, à l'heure actuelle, vous avez combien d'académiciens?
Actuellement, nous en avons 80, et en plus, il y a à peu près 30 à 40 membres sympathisants.
Parmi vos activités, vous organisez des rencontres mensuelles que l'on pourrait appeler des repas-conférences. Et en quoi ça consiste exactement?
Alors, l'activité permanente, si on peut dire, de l'Académie, c'est les repas mensuels, où à chaque repas, un auteur à la tribune pour présenter son dernier livre. Et ensuite, le repas est assez animé, les questions fusent, les réponses. Donc, c'est toujours des soirées très animées.
Très bien.
Et nous choisissons de bons restaurants, quand même, à un prix raisonnable.
Gérard Muller, quand vous avez, vous êtes entré à l'Académie, est-ce qu'il y a un examen d'entrée, un examen de passage? Comment ça se passe?
Non, il n'y a aucun examen de passage, c'est simplement le réseau. Il faut quand même être un tout petit peu connu sur Toulouse. Hein. Bon, sachant que Jean-François a un énorme réseau, beaucoup d'entre gens, donc il m'avait repéré, je ne sais pas comment, mais voilà. Donc, c'est surtout par cooptation.
Par
Bernard Guittard, oui, c'est ça, je me rappelle. C'est surtout par cooptation.
Hein. Il n'y a pas un minimum de livres à avoir publiés au préalable. Ce n'est pas un critère, ça.
Ce n'est pas le nombre de livres, oui. C'est avoir présenté un ou deux livres lors de nos séances mensuelles. Et ensuite, si la personne est assidue, vient régulièrement, à ce moment-là, elle sera installée définitivement.
D'accord. Et est-ce que dans le recrutement de l'Académie des livres, vous faites un distinguo entre les auteurs qui sont publiés chez des grands éditeurs et les auteurs qui sont auto-édités?
Bon, on ne fait pas de différence parce que dans la vie d'un auteur, il aura eu l'occasion de faire tous les critères. Avoir la chance d'être édité chez un grand éditeur parisien, mais aussi avoir fait des livres à compte d'auteur. C'est rare qu'un auteur ait toujours eu un seul éditeur et un grand éditeur. Non, c'est polyvalent.
A commencer par Proust. Hein. Proust a commencé par se faire auto-éditer. Après avoir été refusé par je ne sais pas combien de maisons d'édition, et avant qu'une maison d'édition ne le retienne.
Alors, ce qui signifie que l'on peut lancer un appel aux écrivains qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore l'Académie des livres de Toulouse, qu'ils peuvent se manifester.
Eh bien, qu'ils viennent à nos séances mensuelles où on a environ, maintenant on est à 50 personnes à chaque... réunion mensuelle.
Vous décrivez vos activités comme dans une optique de fédérer les auteurs de Toulouse et de sa région. Est-ce que parmi vos académiciens, il y a des auteurs qui sont extérieurs à la région?
Oui, à l'occasion, quand ils frappent à notre porte, on ne sait pas refuser un bon auteur.
Ils sont bien reçus. Ils sont bien reçus. Alors, une Académie des livres s'occupe notamment des auteurs. Est-ce que vous avez une action particulière vis-à-vis de ce que vous rappeliez tout à l'heure, ce qui est le nerf de la guerre, c'est d'atteindre des lecteurs? Et donc, est-ce que vous avez une action particulière par rapport aux librairies?
Oui, nous sommes en bon terme avec les librairies, mais qui ont leur vie indépendante, puisqu'elles ont leur cycle de dédicaces. On a essayé de se rapprocher d'Ombre Blanche, de Privas, de la librairie de la rue de la Trinité, mais ce n'est pas... Ils ont beaucoup à faire dans leur magasin, à faire vivre leur magasin, et donc ils n'ont pas trop le temps de, j'allais dire, de faire autre chose. Hein, parce que maintenir une librairie, la faire vivre, c'est un gros travail.
Alors avant de parler en détail tout à l'heure du salon organisé par l'Académie des Livres, je voudrais que l'on fasse un petit focus sur le concours que vous organisez chaque année. Gérard Muller, vous êtes en charge de l'organisation de ce concours avec Patricia Puech-Blanc notamment.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce concours, quelles sont les différentes catégories, le nombre de participants et l'objectif général de votre concours?
Alors l'objectif, c'est de promouvoir les auteurs de l'académicien en général et les auteurs toulousains ou de la région en particulier. Et donc c'est un concours qui a plusieurs sections, roman, polar, recueil de nouvelles, recueil de poésie, roman historique, histoire, et cette année on a même eu bande dessinée.
Hein. Voilà. Le journalisme.
Et journalisme, ah, j'allais oublier journalisme, bien sûr. Okay.
Vous ne faites pas dans les mangas?
Non, pas encore, mais ça ne serait tard.
C'est vrai qu'on va ouvrir une section jeunesse.
Oui. Voilà, oui, il faut qu'on s'améliore de ce côté-là. Et donc, il y a, cette année, en 2024, il y a eu une quarantaine d'auteurs qui ont proposé leurs ouvrages.
Hein, et sélectionnés.
Et sélectionnés. Et la remise des prix a eu lieu fin novembre à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, en présence de...
Du conseiller à l'écriture.
Du conseiller à l'écriture de la mairie de Toulouse. Voilà. Et on a remis les prix à cette occasion. À cette occasion, il y avait 150 personnes qui ont assisté à cette remise des prix.
Toute l'après-midi.
Toute l'après-midi.
Et
oui.
C'est un concours auquel répondent de plus en plus d'auteurs au fil des ans.
Oui. Oui, il y a une augmentation du nombre d'auteurs.
Alors, vous avez...
Alors, au passage, oui. Je voudrais remercier la mairie de Toulouse qui nous met à disposition gracieuse l'amphithéâtre, la médiathèque. Ce qui, pour nous, est quand même un endroit prestigieux de la ville. Et nous sommes très honorés donc, d'être reçus pour, maintenant ça fait la quatrième fois, à la médiathèque de Toulouse de José Cabanis, qui est pour nous José Cabanis, qui est une gloire littéraire de Toulouse. Je vous rappelle qu'il a été Acadie, membre de l'Académie française.
Donc, il fallait donc le préciser. Alors, j'ai sous les yeux les résultats du concours de 2024 pour donner un petit aperçu aux auditeurs. Alors, dans la catégorie poésie, le premier prix avait été attribué à Claudine Canda pour « Mon opium est dans mon cœur ». Dans la catégorie nouvelle, c'est Stéphanie Lima pour « Les échappées imaginaires ». Dans la science-fiction, c'était Christelle Lacassin d'art. En histoire, c'était Monsieur Jean-François Gourdou.
Oui, alors je m'excuse, j'étais que seul candidat.
Il est modeste.
Pour votre ouvrage Saint-Domingue, qui avait d'ailleurs donné lieu à une émission Parole d'auteur. Pour le roman historique, c'était Yann Quérault, ex aequo avec Bernard Maoux. Dans la catégorie biographie, Gérard Muller, vous avez obtenu le second prix. Et il y a eu deux prix ex aequo pour Philippe Joffe pour Dans le jardin maudit et Patrick Ojol pour L'orange était sanguine. Et
ça,
pour...
c'était les polars. Hein.
Oui, voilà. Oui, c'était les polars, oui. Et le titre exact, c'était Concerto gris pour une truffe noire,
oui,
pour votre ouvrage. Alors, il y a eu cette année une plume d'or qui a été décernée à Paul Monnier pour son livre Les mots enfouis. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu de l'originalité de ce livre?
Ah oui, alors c'est un livre qui est un spectacle en même temps. Donc c'est un livre qui est illustré par des gravures assez exceptionnelles, réalisées par Mademoiselle de Ressayer, vieux nom toulousain célèbre, et ensuite c'est mis en musique par Jean-Pierre Madère. Donc Paul Monnier non seulement a fait ce livre où il y a tous ces éléments, mais en plus il le produit en spectacle sur un fond de vidéo, d'images de son enfance et notamment du terme des maisons perdues. Parce qu'effectivement, il a perdu plusieurs maisons dans sa vie. C'était un pied noir, bien sûr. Il a perdu sa maison de naissance en Afrique du Nord. Puis ensuite, il a été vivre dans une région où il y a eu un barrage qui a submergé son village. Donc, deux chocs émotionnels dont il a fait ce livre.
Voilà, oui. Effectivement, ce livre passe très bien à la radio, parce qu'il y a des documents sonores qui sont intégrés.
Jean-Pierre Madère, hein, célèbre Jean-Pierre Madère de Toulouse, Macumba.
Oui, tout à fait. Bien, je vous propose maintenant d'écouter Écrire.
Rêver, chercher, apprendre. N'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu. Tendre à la perfection à s'en crever les yeux. Choquer l'ordre établi pour imposer ses vues. Pour fendre. Choisir, saisir, comprendre. Remettre son travail 100 fois sur le métier. Salir la toile vierge et pour mieux la souiller. Faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus. Surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination. Déguiser le réel de l'ombre d'abstraction, désenchaîner le trait par 1000 variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues, prendre les contre-pieds de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à cœur et corps vêtu, écrire, de peur, de sueur, d'angoisse, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais qui refait bientôt surface. User de sa morale en jouant sur les mœurs et les idées du temps, imposer sa vision des choses et des gens, quitte à être pourtant maudit, aller jusqu'au scandale, capter de son sujet la moindre variation, explorer sans relâche la forme et le fond, et puis l'œuvre achevée, tout remettre en question, déchiré d'inquiétude. Souffrir, maudire, réduire l'art à sa volonté brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie, et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme on parle et l'on crie. Il nous restera ça. Il nous restera ça.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de l'Académie des livres de Toulouse qui tient son salon du livre ce samedi 26 avril 2025 à partir de 10h au Novotel Capoul, place Wilson à Toulouse. Nous venons d'écouter Écrire de Charles Aznavour. Traverser les brouillards de l'imagination, déguiser le réel de lambeaux d'abstraction, désenchaîner le trait par 1000 variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire. Très beau texte. Jean-François Gourdou, vous vouliez préciser quelque chose?
Que notre ami Philippe Gilbert est membre de l'Académie des livres.
Ah, voilà.
Bien sûr. Bien que notre liste ne soit pas à jour, mais nous l'avons mal à mettre.
Très bien, les auditeurs sont parfaitement au courant maintenant.
Félicitations à notre académicien préféré.
Merci, monsieur le président. Donc, l'Académie des livres de Toulouse tient son troisième salon du livre ce samedi 26 avril 2025 au Novotel Centre, place Wilson à Toulouse, de 10h à 17h30, l'entrée étant gratuite. Et donc, je rebondis sur vos propos, Président. Radio Présence sera comme d'habitude au salon depuis le début et j'aurai le plaisir de vous y rencontrer, chers auditeurs, car nous comptons sur votre visite à ce salon. Alors, Jean-François Gourdou, quel est le comité d'organisation ?
Alors, effectivement, nous sommes aidés par aussi une personne remarquable, qui est M. Philippe Leroyer, qui habite à Montgiscard, et qui est un habitué des salons du livre, puisqu'il a créé avec d'autres amis, bien sûr, notamment là, dans un cas particulier, une librairie de Ramonville, un salon remarquable qui se tient chaque année à Montgiscard sous la halle publique. C'est un rendez-vous littéraire important et Philippe Royer nous aide beaucoup pour avoir créé notre salon.
D'accord. Oui, le salon qu'elle vous fait allusion, donc c'est le salon de Montgiscard qui a lieu tous les ans en janvier. Alors il y a une autre personne très importante dans ce comité d'organisation, c'est Patricia Puech-Blanc qui est la cheville ouvrière.
Ah oui, sans elle... Elle nous coûte beaucoup de cartouches d'encre parce qu'elle publie tous ses mails en couleur. Donc vraiment, elle est remarquable.
Voilà. Et donc Gérard Muller, vous êtes membre de ce comité d'organisation également.
Oui.
Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on organise un salon de ce type ?
C'est d'abord de trouver une salle. Hein. Ensuite, c'est de choisir les auteurs et les répartir correctement. Okay. Et puis après, il y a tout l'aspect communication. Et ça, c'est un très gros travail, surtout qu'on n'est pas très riche à l'Académie des livres de Toulouse. Et donc, on fait quelques affiches, quelques flyers, et il y a beaucoup de bénévoles qui essayent distribuent ces affiches et qui vont essayer de placarder ces affiches chez les commerçants.
En termes de notoriété, vous avez l'impression que depuis la première édition, il y a eu une progression ?
Ah oui, je pense qu'il y en aura une de plus en plus, parce qu'il faut rappeler une chose importante, c'est que c'est le seul salon du livre intramuros toulousain. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a dans toutes les communes périphériques, mais à Toulouse, non. Pour quelle raison ? La raison, c'est le prix des salles, et surtout le fait qu'il y a un règlement municipal, qui est ancien d'ailleurs, qui fait qu'on n'a pas le droit de vendre dans les salles municipales toulousaines. Donc, faire un salon où on ne pourrait pas vendre les livres, ça paraît difficile. Du fait, nous sommes le seul salon à avoir pu le faire et avoir la dérogation de vente, parce que nous sommes dans une salle privée, qui est la salle de l'hôtel Capoul. Et je félicite la direction du Capoul, qui nous a hébergés, parce que, vous savez, ça a changé de nom. Maintenant, c'est Novotel. Donc, ils cherchaient un sujet de communication quand ils ont réouvert, il y a 4 ans. Nous, on s'est proposé. Et ils nous ont dit, dans le cadre de la communication de notre nouveau Novotel, nous vous hébergeons presque gratuitement. Ce qui est un cas unique.
Donc, avec l'avantage de se trouver en plein centre-ville.
La seule chose qu'ils nous demandent, c'est qu'on prenne le déjeuner à midi dans l'hôtel Capoul. Donc, on le fait avec plaisir.
Alors, l'édition 2025, elle a un invité d'honneur, qui est Jean-Pierre Allot, qui est écrivain et journaliste. Elle a un parrain, qui est Philippe Perrin, astronaute et écrivain. Et il y a Paul Monnier, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui assurera l'animation. Alors, vous pourriez nous donner quelques informations sur ces trois personnages clés du salon ?
Tout d'abord aussi, il faut noter Jacques Olive, qui est un journaliste bien connu puisqu'il était à Sud Radio, des directeurs de Sud Radio. Donc nous avons avec nous au comité d'organisation, nous avons Jacques Olive qui nous a mis en rapport, c'est un peu grâce à lui que nous avons créé chaque année un prix de journalisme. Donc il nous met chaque année en rapport avec plusieurs journalistes qui ont fait des éditos extraordinaires et dont chaque année, grâce à lui, nous décernons un prix de journalisme.
L'invité d'honneur, donc, c'est Jean-Pierre Allaud.
Oui, qui est une figure de la vie régionale, qui a une façon de s'exprimer unique à lui et qui va, pendant toute la journée, animer le salon.
Et que nous connaissons très bien, Radio Présence. Ensuite, le parrain de cette année, c'est Philippe Perrin. Donc, la particularité de ce personnage, c'est que non seulement il est écrivain, mais il est aussi astronaute.
Voilà. Donc, je rappellerai que quand on le voit, on n'imagine pas. Il est adulte, mais on dirait un jeune homme encore. Et je rappellerai qu'il a été polytechnicien, qu'il a été pilote de chasse, qu'il a été, bien sûr, de toutes les grandes écoles, super-héros et compagnie, et qu'il a été ensuite astronaute. Alors, astronaute, c'est le terme qu'il aime bien, parce que vous savez qu'il y a une confusion. Alors, ceux qui vont dans l'espace, les Russes, c'est les cosmonautes. Et les Américains, c'est les...
Spationautes.
Parce que spationautes, c'est un nouveau nom qui a été inventé, spationautes. Enfin, vous voyez, c'est comme automobile. Enfin bon, c'est un nouveau nom. Mais Philippe Perrin nous dit que le vrai nom français, puisque nous sommes dans la tradition de l'Académie française, c'est astronaute. Voilà.
J'ajoute qu'il a sorti un bouquin qui est très bien, qui est très bien écrit, remarquablement bien écrit, qui s'appelle Apesanteur, et qu'il a fait la première sortie extravéhiculaire sur la station spatiale pour un Européen. Donc il a fait quand même quelque chose de fantastique.
Pour réparer, il est sorti dans l'espace. C'est un risque inouï.
Le mât mobile de la station.
Il est sorti de la capsule.
Ah oui, remarquable.
Et c'était le premier opérateur.
Avec un petit tuyau. Ouais. Un petit tuyau juste pour qu'il y ait de l'air, de l'oxygène.
Métier à risque.
Et il raconte ça dans son bouquin.
Alors il a pu sortir.
Très modeste.
Et après, il avait difficulté à revenir. Ouais. Il a eu d'avoir une panique. Mais comme il a la stature du pilote d'essai, il ne craint rien.
D'ailleurs, Philippe Perrin a très gentiment accepté d'enregistrer une série d'émissions dans le cadre de l'émission Candide et les experts à Radio Présence, que j'encourage nos auditeurs à écouter parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de passionnant et je les encourage également à lire son livre. Et ensuite, au niveau de l'animation, c'est donc Paul Monnier qui sera chargé d'instiller de la musique, de la chanson.
Je pense qu'il va nous refaire un spectacle, comme il a le secret. Ah oui, c'est très original. Tu l'as vu, ce spectacle ?
Ah, tout à fait, oui. Alors, le programme. Gérard Muller, le programme, ça commence comment ? Ou je demande à Jean-François, plutôt.
Alors, nous commençons à 10h. À 10h, dans Novotel Capoul, 15 place Wilson. Donc, pour nous, c'est bien parce que c'est accessible par le métro. C'est accessible par les bus. Et même, on peut y arriver en voiture pour ceux qui seraient handicapés. Et il y a même un parking devant le Capoul, qui est le parking des taxis. Donc, ça a toutes les commodités. À côté, il y a le parking du Capitole et surtout le parking de Victor Hugo. Donc, ce point central nous paraît fondamental. Donc, à 9h, les écrivains vont s'installer et le salon sera ouvert à 10h. Donc, nous aurons donc nos trois personnes, Jean-Pierre Allaud qui va animer les stands, Philippe Perrin aussi et Paul Monnier aussi. Donc, ça sera un salon actif, plein de surprises. Alors, nous déjeunerons. Nous sommes à peu près 50 inscrits.
Un peu moins, 43 exactement.
43 inscrits. On ne peut pas aller plus loin. La salle est grande, mais ce n'est pas immense.
Il n'y en aura pas plus.
Non.
D'accord.
On ne veut pas non plus que les auteurs soient comme des sardines à l'huile dans leur boîte. Il faut que quand même, ils aient un peu d'espace avec une table de plus d'un mètre au moins de large. Combien c'est la table ?
1m20,
oui. Moi, j'ai vu des salons où les gens sont coincés, ils ne peuvent pas sortir. Hein. Passent la journée coincés, bloqués.
C'est vrai que dans les salons du livre, il y a souvent une crise du logement. Hein.
Et puis, quand il y a trop de monde, c'est vrai que c'est le visiteur est perdu, parce qu'il y en a trop. Et pour les auteurs, c'est pas très bien parce qu'effectivement, ils sont noyés dans une espèce de grande salle. Et donc, ce côté un peu intimiste de notre club, moi je dis souvent club, hein, de notre académie, je trouve que c'est préférable.
D'accord. À quelle heure vous allez procéder à la remise des... Ah ben, il n'y aura pas de remise de prix, non, c'est en décembre.
On déjeune sur place. Donc, l'après-midi, il y aura toujours nos trois personnes. Alors, à 11h, il y aura donc un petit discours de Jean-Pierre Allot. Et nous attendons la venue éventuelle du maire, M. Moudenc, ou de son représentant, qui est notamment M. Samir Hadji, qui est le conseiller municipal chargé de la lecture. En principe, il lui sera là. Le maire, c'est moins sûr parce qu'il a un emploi du temps, vous le savez, chargé. Donc nous avons la pause déjeuner. Et l'après-midi de 14h à 17h, nous avons l'animation avec surtout les ventes et les dédicaces de livres. Donc c'est très important. Ce salon s'est fait pour que les auteurs puissent vendre leurs livres et dédicacer leurs livres.
Et on peut venir jusqu'à quelle heure?
Alors nous terminerons à 18h. Alors, à 17h30, nous aurons plusieurs remises de prix d'honneur pour remercier les gens qui nous ont aidés.
Très bien, Jean-François Gourdou, je pense que nous avons donné les informations essentielles. Je précise donc qu'il y aura 43 auteurs qui seront là pour présenter leurs livres et les dédicacer, tout genre littéraire confondu, romans, romans historiques, romans policiers, essais, biographies, nouvelles et poésies. J'en cite quelques-uns: Bernard Maoux, Béatrice Balti, Mireille Aublin-Brière, Patrick de Merler, Philippe Jauvet, Pascal Neuville, Yann Quérault, Laurent Mazuré, Jean-Pierre Temple, Isabelle Aquilar, Claudine Canta, Patrick Cojol, Dominique Delperrou. Et je m'excuse pour ceux que je n'ai pas le temps de citer à l'antenne. Avant que nous concluions cette émission, je voudrais me tourner vers Gérard Muller pour que vous nous expliquiez un petit peu quelle est cette activité dont on a parlé tout à l'heure, d'école d'écrivains. Vous dites que l'écriture, ça s'apprend, contrairement à ce qu'on pense communément en France.
Oui, c'est vrai. Par exemple, si vous prenez les pays anglo-saxons comme l'Amérique ou l'Angleterre, tous les auteurs sont passés par des ateliers d'écriture, qu'on appelle du creative writing, ou de l'écriture créative en français, alors qu'en France, on a plutôt l'image d'un écrivain qui naît écrivain. On est ou on n'est pas écrivain.
Avec une inspiration spontanée.
Voilà, exactement. Comme tout le monde n'est pas Victor Hugo, bien sûr, l'écriture, ça s'apprend. Ça s'apprend au même titre que la peinture, que la musique.
Et donc vous l'enseignez dans le cadre d'une association,
voilà,
qui s'appelle
Philémon.
Voilà,
c'est l'association Philémon, qui est une association. On est dans les locaux de la mairie de Toulouse et on est sponsorisé par la mairie de Toulouse. Et le but de cette association, c'est de conduire les jeunes écrivains, jeunes entre guillemets, hein, jusqu'à l'édition soit d'un recueil de nouvelles, soit d'un premier roman. Et j'essaie justement de les conduire jusqu'à l'édition. C'est-à-dire qu'ils ont, à la fin du cursus, ils ont le livre entre les mains.
D'accord. Donc si des auteurs, ou de futurs auteurs, de potentiels auteurs sont intéressés, ils peuvent contacter cette association.
Voilà, oui, ils vont sur notre site qui est Philémon Wifeo, et ils envoient un petit mail ou ils nous contactent. Il y a les coordonnées sur le site internet.
C'est bien noté, Gérard Muller. Merci donc à l'Académie des Livres de Toulouse. Je rappelle que le Salon du Livre se tient ce samedi 26 avril 2025 à partir de 10h au Novotel Capoul, place Wilson à Toulouse, avec la participation, comme les années précédentes, de Radio Présence. Vous pouvez retrouver des informations sur l'Académie des Livres de Toulouse sur la page Facebook de l'Académie, ainsi que sur son compte Instagram. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Rendez-vous au salon, car Parole d'auteur sera au rendez-vous, où j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Merci à Yannick, à la technique. Au revoir à tous et bonne lecture.